Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. On est en pleine forme, oui, le temps change, le beau temps est là, donc il faut en profiter. Mais surtout aujourd'hui, je reçois en fait le mot-clé, le mot d'ordre de l'émission, c'est vraiment « femme extraordinaire ». Et vous allez comprendre pourquoi je reçois deux femmes extraordinaires aujourd'hui. La première s'appelle José Pigeon. José a fait deux AVC en l'espace d'une journée à l'âge de 43, mais oh, ne vous méprenez pas, elle est malgré tout très, très active. Et ma deuxième invitée s'appelle Lise Poulin. Elle est présidente du comité administratif du Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis et elle a aussi créé la page Instagram qui s'intitule « Aventure de Lise ». Alors, si vous êtes curieux, vous pouvez déjà aller voir sa page dans le but, évidemment, de partager une image positive des personnes en situation de handicap et de briser les préjugés. Bref, on en reparle à l'instant même. C'est tout de suite à Les passions de Camille. Ma première invitée s'appelle donc José Pigeon. Elle a 57 ans, elle habite à Montréal. C'est aussi ben, mon amie, on se connaît, José Pigeon, bonjour.
Bonjour.
Alors José, on a eu la chance, toi et moi, de travailler pendant quelques mois au même endroit qui est à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud.
Oui, c'est ça.
Et c'est pourquoi c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que tu as ton histoire à toi comme tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de la tienne. Comment ça s'est passé pour toi de vivre deux, non pas un, mais deux AVC?
Au début, c'est sûr que c'était difficile parce que là, ça venait d'arriver et puis ça a pris quand même assez de temps avant que je sois correcte. Mais finalement, là, ça va bien. Maintenant, ça fait 13 ans. 13 ans que j'ai fait de l'AVC. Maintenant, je fais plein de choses. J'ai travaillé à l'association sportive et communautaire Centre-Sud. Mm-hmm. À ce moment-là, je t'ai rencontrée aussi.
Oui.
Puis, c'est ça. Puis après, ensuite, c'est qu'après, c'est que ça va bien. Là. Je veux dire, là, ça va très bien. Mais
parce que ça fait 13 ans que c'est arrivé. Je veux dire, tu as un autre discours aujourd'hui.
Oui. Mais dans mon jeune temps, si je peux dire, quand c'est arrivé, c'était vraiment pénible, là, mais avec tous les efforts que j'ai faits, la rétabilisation, mm-hmm. c'était beaucoup mieux.
J'en doute pas. Mais j'aimerais, je veux dire, on est là pour en parler justement. Prenons le temps un peu de... j'allais dire, de se replonger dans ce moment. Est-ce que ça te fait quoi d'en reparler aujourd'hui? Est-ce que ça reste un mauvais souvenir ou non, tu en parles avec légèreté?
Non, mais j'ai quand même beaucoup d'amis, puis j'entends, oui, quand le monde me pose des questions, là, je réponds, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, le monde, quand il me voit, il se rend pas vraiment compte que j'ai fait un AVC, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que mon côté gauche est moins disponible, là, mais je veux dire, je fais beaucoup de choses, puis je fais beaucoup de choses, les gens, puis j'ai pas de misère à en parler, là.
Okay.
Si, mettons, j'en viens, puis qu'il y a des gens qui me posent des questions, je réponds à ça, puis non, j'ai pas de misère à ça, là.
Parce que, justement, ça s'est passé, parce que c'est quand même différent pour tout le monde, et quand de ce que je connais, les personnes qui ont un AVC, les causes sont différentes et les circonstances et le niveau aussi, votre état physique dans lequel vous êtes après va être différent. Toi, comment ça s'est passé?
Ben c'est sûr que après ça, je suis allée en rétabilisation. Quand j'étais
réadaptation ou à l'hôpital suite.
Oui, c'est ça. Là, j'ai resté là pendant au moins 3-4 mois.
OK.
Puis ils m'ont fait, en tout cas, j'ai fait plein de choses. J'ai fait la physiothérapie, j'ai fait plein de choses parce que, à vrai dire, quand c'est arrivé, je parlais pas.
OK. C'est un des premiers signes, non, ça, généralement?
Oui. Okay. Oui. Mais c'est ça. C'est que moi, je parlais pas. Puis, en plus, j'avais de la misère à bouger mon côté gauche. Là, en fin de, à l'hôpital Hôtel-Dieu, que je suis allée, eux autres, ils m'ont injecté quelque chose. Puis, c'était... Ben, en tout cas, c'était supposé redevenir correct. Fait que finalement, j'ai bougé un petit peu mon côté, puis ça allait bien. Puis le médecin qui était là, il a dit ben de checker, de faire attention, parce que ça se pouvait que je pouvais en faire une deuxième AVC. Et finalement, ben c'est ce qui est arrivé. Puis là, finalement, j'ai eu de la misère à bouger mon côté gauche, tu sais.
Qu'est-ce qui explique qu'un deuxième AVC surgit après un premier?
Bien, c'est parce que moi, dans le fond, ce qui a causé mon AVC, c'était j'avais pas de bon. C'est comme mon. Dans le fond, j'ai pas de bon anticorps dans mon système. C'est que moi, j'ai sûrement pogné un virus en tant que tel. Puis c'est que mon anticorps en tant que tel, il était pas correct. Puis là, à ce moment-là, ben là, j'ai fait le sein était plus épais. Okay. Donc, ça m'a causé l'AVC, tu sais. Mais pas parce que j'étais pas en forme. J'étais vraiment très, très en forme.
Mais oui.
Puis, ben c'est ça, là. C'est causé par probablement un virus que j'ai attrapé.
D'accord.
Ils savent pas comment. Ils savent pas comment non plus, quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, ben là, c'est ça qui est arrivé. Puis, j'ai fait l'AVC en tant que tel. Le deuxième AVC, a fait que j'ai des problèmes à cause de ça, tu sais, parce que j'en ai fait un deuxième en tant que tel, tu sais.
Ben oui. Et ça t'est arrivé en pleine nuit?
Oui, c'est ça. Il était environ minuit, et puis j'étais plus capable de parler. Je parlais vraiment plus. J'étais là, j'essayais, puis là, ben mon mari me dit, ben Josée, puis finalement, c'est là qu'il a appelé l'ambulance, puis en fait, ben là, je suis allée à l'hôpital, et puis là, ben c'est ce qu'ils ont découvert, puis c'est là qu'ils m'ont injecté. À ce moment-là, après l'injection, ça allait bien, tu sais, j'étais capable de bouger tout, mais finalement, j'ai fait un deuxième AVC, t'sais.
Oui, c'est malheureusement ça. Le deuxième qui a...
Oui, bon. C'est ça, qui a fait ça, tu sais. Fait que... Mais là, finalement, là, maintenant, ça va très bien. Bien, c'est sûr, ça fait 13 ans.
Oui.
Mais au début, là, j'avais beaucoup de réadaptation à prendre. J'avais beaucoup de choses à. Je suis allée au centre de réadaptation pendant, comme j'ai dit tantôt, 4 mois.
Oui.
Et ensuite, je suis allée à Lucie Bourneau.
Oui.
Pour continuer un petit peu la réadaptation.
Mais et c'était franchement, c'était nécessaire. Ça fait la différence.
Oui. Oui. Il a fallu que j'apprenne un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tous les jours, là. Il a fallu que j'apprenne à marcher, il fallait que je prenne à parler, ainsi de suite, tu sais. Mais ce qui a fait que je parle beaucoup, entre autres, maintenant, c'est que à cause que moi, j'ai travaillé au centre-sud comme toi.
Oui.
Puis à ce moment-là, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup.
Mais donc, à quel point de revenir, redevenir active, oui, mais même dans le milieu professionnel, d'être en contact avec des personnes et de devoir...
Gens,
oui, c'est ça, le contact humain, mais surtout de devoir communiquer. Je veux dire, il y a peut-être des personnes qui vont avoir tendance à plus s'isoler. Toi, tu vois vraiment que ça, encore une fois, ça fait toute la différence pour toi.
Ah oui, ça fait la différence. Ah oui, parce que sinon, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, que je parlerais peut-être autant, tu sais, ben autant comme avant. T'sais.
Oui.
Mais je veux dire, c'est sûr que ça m'a aidé là. C'est juste à me faire mes choses. J'étais secrétaire aussi comme toi,
oui.
Tu sais, au secrétaire à l'avant. Puis c'est ça l'a aidé beaucoup, beaucoup, là, tu sais, parler avec les gens, les problèmes dans le fond des inscriptions, d'essayer de ça. Il a fallu que je parle avec eux, tu sais, il a fallu que c'est comme ça que, en fait, que je suis revenue un petit peu normale, tu sais.
Oui.
Je suis normale.
Voilà, on s'entend.
C'est ça.
Mais,
c'est ça.
Et je suis curieuse de savoir, toi, pourquoi, suite à ton AVC, c'est au Centre-Sud que tu as décidé d'aller travailler?
Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, je patinais à Centre-Sud.
Ah!
Oui, parce que ma première ouvrage, ben mon travail à moi, étant donné avant l'AVC, j'étais en patinage artistique. J'étais professeure en patinage artistique. Oh. Fait que je travaillais au club qui... qui était Centre-Sud.
D'accord.
Fait que je travaillais à ce club-là. Puis la personne, Guetta Forslo, entre autres, mm-hmm. qui s'occupe aussi du programme de l'association sportive, je le connaissais vraiment beaucoup. Puis à ce moment-là, il a su que j'ai fait un AVC. Puis là, il a dit, viens, on pourrait peut-être trouver quelque chose ou trouver quelque chose à faire, et ainsi de suite. Puis là, finalement, j'ai commencé à travailler.
C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est
Oui. Fait que là, à la fin du compte, j'ai commencé à travailler à l'accueil, ainsi de suite. Puis à chaque fois, ils me donnaient un petit peu plus de responsabilité. Mm. Fait que là, maintenant, j'étais secrétaire. J'ai travaillé là pendant 11 ans.
Wow.
Ensuite, là, j'étais à ma retraite.
Oui, mais c'est
dit, oui.
Depuis tout récemment.
Oui, à cause de la pandémie, entre autres. Parce que moi, je devais prendre ma retraite en juillet. Mais finalement, avec tout ce qui est arrivé, je l'ai pris au mois de mai.
D'accord.
Parce que le centre était fermé, puis quand ils ont voulu réouvrir après le centre, parce que tous les bâtiments étaient fermés, tu sais, fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai décidé de prendre ma retraite. Au lieu de la prendre en juillet, je l'ai pris au mois de mai.
c'est pas plus mal. Surtout, pendant l'été, ça se prend bien. Parlant de prendre quelque chose, de parler de quelque chose qui se prend bien, qui s'écoute bien, on va passer à notre pause musicale. On se retrouve tout de suite.
Merci.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without.
Yeah.
C'était U2 et leur chanson One. Et José Pigeon, c'est une chanson que tu as choisie. Pourquoi?
Moi, avant que je fasse un AVC, j'adorais U2, mais j'aimais encore beaucoup U2, là. Oui. J'écoute encore beaucoup de U2, mais j'adorais U2 Puis finalement, j'ai pensé à ça. J'ai dit, pourquoi pas qu'on ne pourra pas jouer U2? Puis j'ai mis la chanson One parce que c'est une chanson qui était paisible à mes oreilles. c'était bien. Ouais.
Super. Et bon, la musique te fait du bien, mais c'est pas que ça. Évidemment, tu as énormément de passion et d'activités. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, parce que moi, étant donné que j'étais patineuse, que j'étais entraîneur en patinage artistique, je faisais beaucoup de sport. C'est sûr que ça me touchait beaucoup. Il a fallu que je travaille très, très fort parce que je fais beaucoup de sport aussi encore.
Oui.
Mettons que je l'été, en tout cas, entre autres, c'est que l'été, moi, je fais beaucoup de vélo. J'ai un vélo en tandem avec mon mari.
Wow.
Et on fait beaucoup, beaucoup de vélo. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je fais beaucoup de sport. Autant l'hiver, c'est la raquette. J'ai fait du ski, J'ai fait un petit peu de ski alpin en début, mais maintenant, je fais beaucoup de raquettes dans les montagnes. J'ai fait du ski de fond aussi et je fais de la marche nordique aussi. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de la randonnée avec des crampons, ainsi de suite.
Oui.
Fait que c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup le sport. Je suis une passionnée de sport.
Tu as bien raison, moi je suis d'accord avec toi. Le sport, ça fait du bien, c'est important pour le moral, pour le physique.
Oui.
Puis bon, je trouve ça magnifique, hein, le vélo en tandem avec ton mari. D'ailleurs, ça me donne envie de lui faire une petite place hein, dans notre discussion. Ton mari, je dirais, il était avec toi depuis très longtemps. Il était avec toi avant que tu fasses tes AVC.
Oui.
Je veux dire, il t'a pas lâché.
Non, ça fait 33 ans. Mmh. 33 ans de mariage. Fait que ça fait
bravo.
Que dans le fond, ça fait 33 ans. Ça, c'est sûr que l'AVC est arrivé. Ça faisait 20 ans que j'étais mariée.
Oui.
Puis finalement, là, après ça, ça fait 33 ans. Puis il m'a aidé beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, quand même, là. Il me poussait beaucoup. Que j'étais persévérante et c'est ça. Mais je veux dire, lui, entre autres, il m'a aidé vraiment beaucoup. Fait que là, à ce moment-ci, là, maintenant, là, on fait du sport ensemble. Lui, il va faire beaucoup de jogging. Moi, je fais de la marche. On fait de la raquette l'hiver. On fait beaucoup de vélo. On fait beaucoup de voyages de vélo aussi.
Ça fait rêver parce que, je veux dire, ça te permet de visiter des lieux. Et c'est vrai que de visiter un endroit et un pays, une ville en vélo, c'est complètement différent. J'ai envie de te demander, parce que tu es beaucoup allée en Europe.
Oui, c'est ça. Je suis allée en Espagne.
Okay.
J'ai fait Majorque, en Espagne. On a fait la Sacalobra. Ça, c'est une montagne, c'est immense et c'est fantastique de faire ça. Il a fallu que je m'entraîne beaucoup avant, là, parce que c'est quand même assez difficile.
Oui.
J'étais allée en France, j'étais allée en Suisse en vélo. J'ai fait le Mont Ventoux en vélo. Je suis allée aux États-Unis, le mont Whiteface Mountain. On a monté le mont, ainsi de suite. Là. Toutes les montagnes qu'on a pu faire.
Mais c'est incroyable. Je veux dire, au final, pour toi, il n'y a pas beaucoup de limites malgré tout.
Non, c'est ça. Mais dans le fond, des fois, tu sais, je suis là, je suis capable de faire ça. Fait que là, mon mari dit, t'es capable, Fait que à ce moment-là, on y va, tu sais. Puis là, on fait des choses, tu sais. Puis la même chose qu'on fait de la marche, on monte des montagnes.
Énormément. Mais c'est incroyable ce que ça fait, l'amour et la volonté. On peut aller au bout du monde, hein, je peux dire ça avec toi, parce que c'est exactement ce que tu nous racontes. Vous d'ailleurs, les deux, vous vous êtes acheté une camionnette, un VR.
Oui, c'est ça, cette année, exactement, on va l'avoir au mois d'avril, on s'est acheté un VR. Là, mon mari va tomber bientôt à sa retraite, sa deuxième retraite, parce qu'il a déjà pris sa retraite.
Okay.
Puis il travaille encore parce que là, il a fait un contrat. Alors ça, c'est supposé de se terminer cette année en décembre. Et puis, là, on s'est demandé, tu sais, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, on dit, bon, ben, OK, on va s'acheter un VR. Fait que là, on s'est acheté un VR, on va l'avoir au mois d'avril. Parce que là, ben, c'est sûr que cette année, tu sais, c'est comme la pandémie. Fait que c'est sûr qu'on peut pas aller plus loin que dans Québec en tant que tel, tu sais. Oui. Mais il y a plein de places à Québec qu'on peut aller, tu sais. Fait que nous, on va partir avec notre tandem, puis on va aller aux îles de Madeleine, on va aller à plein de places, on va aller dans la Malbaie, au Bic.
Aïe, aïe, aïe. Vous avez de très, très beaux projets.
Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est au mois d'avril, à la fin avril, là, on va commencer à tester un petit peu notre VR.
Eh bien oui, s'entend, vous devez être excités les deux de faire ça. Et j'y pense, sachant que vous bougez beaucoup, vous venez de prendre votre retraite, donc, mais vous avez des enfants aussi.
Oui, oui. J'ai une fille qui a 28 ans maintenant. Elle s'appelle Catherine. Elle est hygiéniste dentaire et mon garçon a 24 ans. Ma fille, elle a 28 ans et mon garçon a 24 ans.
D'accord.
Puis il est encore aux études. Il étudie à l'ETS en génie électrique.
Wow.
Et il va terminer en décembre.
Bon, donc voilà.
La dernière année d'école.
Mais vous êtes une belle famille bien occupée et très active à ce que je vois.
Oui, oui, oui. Ah oui. Qu'est-ce... Ah oui, on aime bien ça, puis chacun, même ma fille est très sportive aussi, mon garçon aussi, sauf que là, ben, c'est sûr qu'il y a les études là, qui rentrent en ligne de compte, là. Mais je veux dire...
Oui, passage
oui,
obligé.
Compte, oui, c'est ça, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une chose que tu as... En fait, quelle expérience tu as pu retirer de tes AVC? C'est un peu plate de toujours revenir parler de ça, mais clairement, il y a quelque chose de beau et de positif à en ressortir malgré tout. Pour toi, ça se fait de quelle façon?
Bien, dans le fond, là, je me dis que chaque personne est différente. Les AVC arrivent aussi, c'est différent aussi à chaque personne. Oui. Mais c'est de ne pas lâcher, même quand ça va mal ou qu'ils ont un petit peu de difficulté, à un moment donné, ça va venir puis ça va passer. Tu sais, je veux dire, à force de travailler, ils vont être capables d'arriver à leur but.
Mm-hmm. Donc, la patience, toi, ça t'a pris
oui.
à être plus patiente.
Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que quand on regarde ça, tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, je veux dire, des premiers temps, tu sais, ça marche, mais on est souvent découragé, tu sais, mais il faut persévérer. Okay. Persévérer dans ça.
Comme quoi on dit, quand on voit on finit par voir la lumière au bout du tunnel.
C'est ça. Oui.
Donc, c'est ton conseil, en fait, que tu donnes aux personnes qui, oui, ont vécu un AVC, mais c'est un conseil, je veux dire, que tout le monde, on peut prendre, hein? Peu importe.
Oui, c'est ça. Il s'agit, dans le fond, de persévérer. Même quand ça va pas bien, ça va aller. Ça va aller. À un moment donné, là, ça va arriver, puis... ça va aller bien.
Et tu sais de quoi tu parles, parce que les difficultés que t'ont amené, tes AVC, tu sais, c'est pour toi, le côté technique, tu nous dis que ton côté gauche est un petit peu plus, moins fonctionnel. Donc, quand on parle de déplacer, un meuble dans la maison, faire le ménage, toutes les choses techniques, mais aussi au niveau de la parole, hein, tu nous le dis toi-même, des fois tu peux chercher tes mots, ça occasionne des blancs de mémoire aussi.
Mm-hmm. Oui, des blancs, oui, c'est ça. Des fois, tu sais, des fois on pense à quelque chose puis on va avoir, mettons qu'on cherche le nom d'une personne, tu sais, je le vois, Colin, comment qu'elle s'appelle, puis je suis là, ça prend un petit peu de temps, mais à un moment donné, ah oui, là je sais, tu sais. C'est un petit peu plus lent, des fois, certaines choses.
Mais c'est ce qui fait, en l'occurrence, que tu profites plus du temps, du moment présent et du temps que tu passes avec les gens aussi.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Est-ce que tu as un grand rêve qui est pas atteint encore? Parce que je pense que tu en as atteint beaucoup. Est-ce qu'il t'en reste encore en tête un ou des grands rêves? C'est une grosse question.
Mon Dieu, oui, hein, c'est ça. Mon Dieu, je te dirais voyager, mais des voyages, on en fait quand même beaucoup. Tu sais, je veux dire, même je suis allée en Chine, mais de faire d'autres choses, mon Dieu, je ne pourrais pas vraiment te dire, mais j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller à des places ou quoi que ce soit. C'est dans le fond, c'est ça que j'aime le plus, un petit peu, de voyager.
Eh oui, avec raison.
Ben oui, puis avec ma famille aussi, ma fille, mon garçon, ainsi de suite, tu sais, avec eux aussi, j'aime ça. Mais c'est de voyager beaucoup.
Ben je te le souhaite. Je te souhaite bien des voyages malgré les circonstances dans lesquelles on est en ce moment. On garde espoir et comme tu le dis si bien, bon, on va rester persévérant aussi. On va garder la tête haute et comme tu nous l'as très bien décrit, malgré la situation dans laquelle on est, ben, il y a quand même moyen de bouger, de faire des choses, de sortir. Donc il faut regarder ce qu'on a plus que ce qu'on n'a pas. Tu es d'accord avec moi?
Oui, c'est ça. Oui, en plein ça.
Génial. Mais écoute, Josée, merci infiniment. Ça m'a fait très plaisir de reparler avec toi. Ça faisait très longtemps, en fait, qu'on s'était pas reparlé. Oui. Alors, je te dis une belle journée et au plaisir, ma chère.
OK, bien, merci beaucoup à toi.
Et restez avec nous. Après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Lise Poulin.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille toujours représente et oui, toujours aussi en compagnie de ma deuxième invitée qui s'appelle Lise Poulin. Elle a 42 ans, elle habite à Lachine. Elle est présidente du comité administratif du Club des personnes handicapées du lac Saint-Louis et elle a aussi créé la page Instagram, comme je vous disais au début de l'émission, qui s'appelle Aventure de Lise, pour évidemment partager une image positive d'une personne handicapée et pour briser les stigmas, les préjugés qu'il peut y avoir. Bonjour, Lise.
Bonjour, bonjour. Ça va bien?
Très bien, merci. Alors, Lise, tu as... j'allais dire, tu as beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à nous raconter à travers toute ton expérience de vie. Et j'aimerais que tu commences à nous parler, évidemment, de ton handicap.
Ben oui, en fait, j'ai la chance. J'ai envie de dire, j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai, qui m'a ouvert plusieurs portes. Donc moi, je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant électrique motorisé. J'ai la dystrophie musculaire et en fait, j'ai une des différentes maladies neuromusculaires qui existent. Donc j'ai l'amyotrophie spinale qui fait en sorte là, que mes muscles s'atrophient. C'est une maladie qui est dégénérative, mais qui me permet de m'adapter au cours des différentes étapes de ma vie.
Eh oui, ben là, je veux dire, il y a déjà plein de mots-clés dans ce que tu nous dis à l'instant. L'adaptation, c'est quelque chose, j'allais dire quoi, t'as pas eu le choix de faire avec, mais justement, oui, c'est un choix de décider de s'adapter aux aléas de la vie.
Exactement. Puis je pense qu'on a tous, hein, en tant qu'être humain, à s'adapter à différentes choses, que ce soit de passer d'une certaine étape de notre vie vers, par exemple, l'étape d'adulte, de commencer le marché du travail.
Oui.
Mais moi, j'ai, en plus de toutes ces étapes d'adaptation-là, de la vie, je vais dire, régulière, j'ai la chance de m'adapter à des nouveaux défis qui m'apparaissent au cours de ma vie. Que ce soit la perte d'être en mesure de manger seul, que ce soit la capacité de me déplacer avec ou sans fauteuil roulant. Donc, vraiment, j'ai opté dans la vie plutôt que de m'apitoyer sur le fait que j'avais pas certaines choses, mais de voir les choses différemment. ça rend la vie beaucoup plus légère et beaucoup plus positive.
À qui le dis-tu? Encore une fois, toute la différence découle de notre attitude, de ce qu'on a entre les deux oreilles, peu importe notre condition physique. C'est propre à chacun, comme d'habitude. Mais toi, dans ton cas, c'est une maladie dégénérative. Donc, physiquement, ça change tout le temps. Donc, j'ai envie de savoir à quelle fréquence est-ce qu'il y a un nouvel enjeu, un nouveau défi, comme tu le dis, qui se présente à toi?
Bien, en fait, j'ai la chance que ce ne soit pas quand même au quotidien. Okay. Hein, des fois, il y a certaines petites choses qu'on fait « Ah, c'était plus facile il y a quelques semaines, ça devient plus difficile. » Puis, c'est à ce moment-là qu'on commence à trouver des nouveaux moyens d'arriver au même objectif, dans le fond. Mais j'ai envie de dire que dans la dernière année, j'ai vécu des enjeux de santé qui ont fait en sorte que j'ai vraiment eu une grosse période d'adaptation à vivre, mais j'en sors grandi. Encore aujourd'hui.
Et voilà, c'est l'ordre, le mot du jour, encore une fois. Mais donc, sachant que tu es quand même, tu dépends des autres personnes pour tes activités du quotidien. Quand on dit des autres personnes, dans ma tête, j'ai le mot surtout de ton conjoint, entre autres, qui est là avec... En fait, ça fait depuis combien de temps que vous êtes ensemble? C'est pas seulement ton conjoint, c'est ton mari.
Ben oui, exactement. J'ai la chance d'avoir... un amoureux depuis déjà 23 années. Donc, wow. On est un jeune vieux couple. Mais j'ai mon mari. J'ai aussi eu des parents dans ma vie extraordinaires. Je pense que tout part de là. Hein. Si on m'avait inculqué le fait que j'étais différente et que je pouvais pas arriver à faire des choses, j'aurais probablement pas la mentalité que j'ai aujourd'hui.
Non.
Donc, je suis très reconnaissante là, qu'on m'ait tout appris à briser les barrières puis à penser différemment.
Est-ce qu'il y a une chose que t'es une phrase ou un moment qui t'est resté en tête de justement avec tes parents en lien avec ton handicap qui t'ont aidé aujourd'hui à avoir cette belle vision de la vie?
Absolument. En fait, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que je pense que ça a vraiment créé la personne que je suis. Un jour, j'étais toute petite, j'avais peut-être 5 ans. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai remarqué que les gens me regardaient. Puis dans ma tête de petite fille de 5 ans, les gens me regardaient parce que j'étais différente, parce que j'étais pas comme les autres. Mm-hmm. Et je me suis mise à pleurer. Puis je me souviendrai toujours, mes parents étaient près de moi. Et mon père m'avait dit, « Pourquoi est-ce que tu pleures? » Puis là, j'ai dit, ben, papa, regarde, les gens me regardent. Je suis pas comme les autres. Puis il m'avait dit, mais personne te dit que les gens te regardent pour ça. C'est ce que tu penses. Mais moi, si je te dis que les gens te regardent simplement parce qu'ils te trouvent forte, parce que tu dégages quelque chose d'exceptionnel ou parce qu'ils te trouvent simplement belle, et ça a changé complètement ma... À partir de ce jour-là, je me suis dit, les gens me regarderont pour une raison positive. Ils ne me regarderont pas parce que je suis différente.
Oh, que c'est beau. C'est magnifique. C'est rempli de douceur, mais surtout d'amour.
Ah oui, vraiment.
Oh, aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. On le sait, hein, honnêtement. On est consciente hein, que Lise, toi et moi, que c'est pas tout le monde qui a cette chance, malheureusement, d'avoir cet apport de ses parents. Oui, beaucoup l'ont, hein, mais il y a des exceptions à la règle.
Mm-hmm.
Mais c'est incroyable hein, comment l'amour et la présence des parents ou des personnes qui sont autour de nous à des moments, des étapes importantes de notre vie, à quel point ça peut tout transcender.
Oui, exactement. C'est sûr que ça a été le début, j'ai envie de dire, de ma vie actuelle. Où est-ce que j'étais au fait, mais éclairée sur ce qui se passait autour de moi, puis plutôt que de fermer les yeux pour pas voir les choses qui pourraient me blesser,
oui. J'ai
décidé d'ouvrir les yeux pour voir ce qui était beau. Et ça a commencé là.
Est-ce que j'imagine que ça t'a donné une certaine arme ou une certaine confiance en toi pour quand même faire face à des situations que tu as vécues plus tard dans ta vie, au secondaire et à l'université, où tu as quand même vécu une certaine forme de discrimination, malheureusement?
Ben oui, en fait, c'est sûr que
les gens ne sont pas toujours et n'ont pas toujours la même éducation ou la même vision que nous par rapport à la différence. Donc, je pense que oui, ça m'a permis vraiment d'être en mesure de les gens qui essayaient de m'arrêter ou de me mettre des barrières, on dirait que ça me donnait une motivation additionnelle, c'est-à-dire, vous savez, dans le fond, vous avez tort, puis je vais vous le prouver. Puis ça a été une bougie d'allumage pour moi. Je me souviendrai, entre autres, au secondaire, à un moment donné, un directeur m'avait dit que moi, je pourrais rien faire. On arrivait au moment où est-ce qu'on devait décider notre carrière, où est-ce qu'on voulait s'en aller après le secondaire. Puis il m'avait dit que moi, dans le fond, je ferais rien parce que j'étais une personne en fauteuil roulant. Puis le jour où j'ai terminé mon baccalauréat à l'université, je ne sais pas où il est, où était cette personne à ce moment-là. Mm. Mais pour me donner toutes les armes puis pour pouvoir lui démontrer qu'il avait tort, qu'il m'avait jugé de façon complètement basée sur des fausses conceptions que lui avait.
Mais oui.
J'ai avec mes parents, on avait mis ma photo avec un mot de félicitations pour ton baccalauréat dans le journal.
Dans le journal? Quand même?
Ouais, en espérant qu'il le voit d'où il soit.
Waouh, c'est comme un... Ah, si on peut le dire, un bon petit coup de poing quand même, là, de bon, regardez, si vous me voyez, regardez où je suis rendue.
Oui, mais ça avait deux effets. Ça avait l'effet de dire que c'était vraiment personnel. Je pense que le revoir aujourd'hui, je lui dirais merci. Merci de m'avoir donné le carburant de poursuivre parce que ça m'a complètement allumée dans le sens où je n'allais pas donner le pouvoir à un individu de décider de mon sort.
Certainement.
Mais j'espérais aussi en même temps pouvoir inspirer d'autres personnes qui pouvaient vivre en situation de handicap croyant que peut-être c'était pas possible ou peut-être qu'eux aussi avaient eu des gens dans leur vie qui leur auraient dit tu pourras pas poursuivre d'études ou quoi que ce soit à cause de ton handicap et lui dire, regardez, c'est possible, je suis arrivée. Oui, vous pouvez faire aussi.
Mais bien sûr. Alors, en fait, c'est magnifique la façon dont tu le vis, de vouloir le remercier aujourd'hui. Il a allumé ton feu et c'était une bonne chose pour toi, mais parce que c'est toi qui as décidé de l'utiliser de cette façon-là.
Absolument. Absolument. Je pense qu'on est tous maître de notre propre personne.
Ouais.
Et c'est sûr que si on me demande est-ce que tu veux venir au deuxième étage d'un endroit qui n'a pas d'ascenseur, ça n'arrivera pas. Okay. Mais je pense qu'on peut toujours planifier les choses, voir les choses différemment. Il faut être créatif dans la vie. Puis on peut créer des solutions. Donc si je peux pas me rendre à un endroit, est-ce que l'endroit peut pas se rendre à moi?
Ben oui, voilà. Mais c'est ce que tu l'as déjà fait à plusieurs reprises, hein?
Absolument, absolument. Étant adolescente, je pouvais pas aller chez les amis parce que tout le monde se retrouvait chez le sous-sol de une ou l'autre. Puis c'était pas accessible pour moi. Je pouvais pas y aller. Donc, on a créé un lieu, un sentiment, un lieu pour avoir un sentiment d'appartenance tout le monde ensemble. Puis même qu'on a réussi à avoir dans notre municipalité un local au centre communautaire qui était accessible pour qu'on puisse se retrouver. Ils nous ont reconnus. Donc oui, on peut... Faut juste être créatif.
C'est un très, très bel exemple. Et là, parlant d'amis, centre communautaire, mais d'un lieu où on peut se retrouver, passer du temps ensemble, ça me permet de présenter la chanson que tu as choisie, Lise. On l'écoute, puis tu nous expliques pourquoi tu l'as choisie tout de suite après.
Ah, ça me fait plaisir.
You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a
friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Merci Randy Newman d'avoir créé cette chanson qui s'intitule You've Got a Friend in Me. Toi, Lise Poulin, tu, je veux dire, ça te représente tellement bien comme chanson.
Ah, tellement. En fait, je pense que cette chanson-là peut vraiment rattacher deux aspects, les deux aspects les plus importants de ma vie, en fait. Toujours l'idée de garder son cœur d'enfant, de voir les choses, au lieu de on dirait qu'en vieillissant, on vient qu'à se compliquer toutes les situations qui se passent. On essaie de suranalyser des choses. Mm-hmm. Puis, je pense que moi, une de mes philosophies, c'est vraiment de garder mon cœur d'enfant, puis voir les choses simplement, puis de pas paniquer, de vraiment juste penser, réfléchir à des solutions, à des moyens.
Oui.
Donc, puis ça fait en sorte que, ben, je pense que je peux dire que je suis une fan de Disney. Donc, parce que je pense que Disney représente justement l'endroit où on a le droit de garder notre cœur d'enfant,
oui,
même si c'est souhaité. Mais en tant que personne en situation de handicap, Disney représente une certaine légèreté, liberté aussi. C'est des voyages pour moi qui sont sans soucis, sans contraintes. C'est des voyages qui sont vraiment reposants parce qu'on n'a pas à se casser la tête justement au niveau de l'accessibilité.
Donc,
ça, c'est le premier aspect.
Mais parce que, je veux dire, à Disney, à Walt Disney, tu y es allé maintes et maintes fois.
Oui, je dois admettre que je suis allée. Ben, la pandémie m'a arrêtée un peu,
ben,
mais oui, effectivement, on y va. Généralement, ben, on essaie d'aller au moins deux fois par année.
Wow, quand même!
Ouais, c'est vraiment un endroit où ça fait du bien. Ça, il fait chaud, tout est simple. On a le droit de juste vivre le moment présent. Je pense que ça aussi, c'est important.
Oui.
On n'a pas à prévoir ou essayer de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va être accessible, est-ce que... On n'est pas dans la planification à ce niveau-là. On est vraiment juste dans le moment présent.
Mais c'est incroyable parce que toutes les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, on le sait très bien, la planification dont tu parles et l'appréhension, il y en a toujours une, peu importe les endroits où on va. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est qu'à Walt Disney, en termes d'accessibilité, ils sont à 100% là-dessus, quoi. Ils sont presque même en top de liste.
Ah oui, non, absolument. C'est sûr que je vous dirais qu'il y a même des certaines manèges sur lesquelles on peut embarquer avec un fauteuil roulant électrique.
Ah,
là. Donc,
oui.
Vraiment, tout est réfléchi. Mais tout est réfléchi pas pour qu'on pense à nous de façon différente.
Mm.
Tout est réfléchi pour qu'on puisse vraiment être considéré comme tout le monde.
Ouais, c'est génial. C'est l'idéal.
Oui.
Et là, on parle d'accessibilité, mais quand on parle d'accessibilité universelle, ça passe aussi par la formation du personnel.
Oui, puis eux sont extrêmement au top dans cette situation-là parce que honnêtement, ils ont même eux-mêmes des employés qui sont en fauteuil roulant, qui sont sourds, qui sont muets. Donc, vraiment, des gens, ils ont des étiquettes là, qui disent la langue qu'ils parlent, hein, parce qu'on s'entend qu'il y a des voyageurs de partout dans le monde.
Oui.
Mais il y a des gens qui ont sur leur étiquette le langage des signes.
Wow.
Donc, on sait qu'avec eux, on peut parler le langage des signes. Donc, vraiment, c'est
un gros plus. Et toi, il t'est déjà arrivé une situation où tu étais au restaurant et pour toi, de tenir des ustensiles selon de quoi ils sont faits, si les ustensiles sont trop lourds, pour toi, ça peut être un peu compliqué.
Oui, bien, effectivement, hein, quand on mange des fois dans des restaurants chics, on dirait que ils disent que les ustensiles doivent être plus lourds parce que c'est plus chic, je sais pas.
Oui.
Mais j'arrivais pas à manger mon repas parce que ma fourchette était trop lourde. Et le serveur, il me dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il est allé dans un restaurant avoisinant chercher des ustensiles en plastique. Puis, il me les a emmenés pour que moi, je sois en mesure de manger. Puis, vraiment, là, vraiment apprécier mon repas.
Et ça goûtait pareil, tu penses?
Comment?
Est-ce que ça goûtait pareil, ton repas, parce que t'as vu le bon ustensile?
En fait, je pense que c'était meilleur parce que c'était moins important pour moi.
Et voilà. Mais, mais c'est magique, c'est génial. C'est Walt Disney, voilà, rien de moins. Est-ce que, je ne sais pas si c'est facile pour toi de répondre à cette question toute simple, mais toi qui es fan de Disney, quel est ton film préféré de Disney?
Ouh là là!
Je me doutais bien.
Ouais, c'est difficile. En fait, je dirais que plus jeune, j'aimais beaucoup La Petite Sirène parce que je pouvais, en quelque sorte, on essaie toujours de se reconnaître à travers des personnages.
Oui.
Puis je me disais, La Petite Sirène, elle veut juste marcher sur la terre. Mm. Puis moi, je peux pas marcher comme elle.
Oui.
Elle, dans le fond, son fauteuil roulant, c'est l'océan. Ah. Tandis que moi, je me déplace dans un fauteuil roulant sur la terre.
Oh là là, que c'est beau.
Ouais.
Très belle image. Je pense qu'on est plusieurs hein, à s'identifier à la petite Ariel, évidemment.
Oui, exactement.
Mais puis là, je change un peu de registre parce que, oui, évidemment, Walt Disney, ben, c'est un gros plus pour toi et ça te fait du bien. Mais en même temps, tu es une femme aussi de terrain, dans le sens qu'une autre de tes passions, ben, ça a été la politique.
Oui, exactement. En fait, je pense que Disney était un peu un échappatoire pour être capable de reprendre des forces et mon énergie pour quand je reviens à la maison, ben on passe en mode action.
Oui.
Donc, effectivement, de 2009 à 2013, j'ai eu la chance d'être élue conseillère municipale dans la région de Montréal.
Chapeau.
Donc, pour l'arrondissement de la Chine.
Ah
oui. À ma grande surprise, j'étais la première personne en fauteuil roulant élue dans l'histoire du Québec. Puis je me disais, en 2009, ben, je suis fière, mais je trouve ça dommage que je sois la première. Il me semble que on devrait plus être à l'étape de dire qu'on est encore les premiers à faire certaines choses.
Oui, oui.
J'espère pouvoir dire que je ne serai pas la dernière.
Oui, non.
Et qu'il y aura d'autres personnes qui pourront poursuivre la route. Mais oui, c'est quelqu'un qui a besoin... on parlait de la chanson « You've got a friend in me ». Pourquoi ça me représente? Mais ça me représente aussi parce que j'ai besoin d'être au service des gens. Je pense que c'est aussi ce qui me permet de continuer la route à tous les jours, de savoir que je peux faire une différence ou que je peux laisser quelque chose. Hein, parce que vient un moment où on se dit qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi?
Oui.
Ben moi, je travaille à ça dès maintenant.
De maintenant, puis depuis des années même, hein?
Oui, exactement. Donc, porte-parole de l'Association canadienne de la dystrophie musculaire, toute petite. Ensuite, avec la politique qui m'a permis vraiment, hein, on s'entend que c'est le palier de décision qui est vraiment le plus près des citoyens.
Oui.
Puis maintenant, avec la présidence du conseil d'administration du Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis, je pense que c'est vraiment mon envie, mon besoin de faire une différence.
Oui.
Puis dans un monde idéal, j'aimerais bien un jour que notre organisme n'ait plus à exister parce qu'on sera complètement inclusif dans toutes les sphères de notre communauté.
Et oui, c'est un magnifique souhait qu'on espère qu'il va se réaliser. Bon, on ne sait pas dans combien de temps, mais on sait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent justement à l'inclusion, à l'accessibilité. Donc, on est dans la bonne voie. Mais moi, ce que je retiens de ton attitude dans tout ce que tu fais, c'est oui, non seulement ta capacité à t'adapter, comme on l'a dit en début d'entrevue, mais ton approche de collaboration au lieu de confronter une situation, confronter des gens, un problème, le mot collaboration, c'est aussi un de tes mots-clés.
Absolument, absolument, parce que qu'est-ce qu'on fait si on est en confrontation, les gens se referment? Oui. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie qu'on puisse travailler ensemble. Mon but, ce n'est pas d'avoir d'exclure des gens qui n'auraient pas d'handicap. En quelque part, c'est un peu c'est un peu ridicule de travailler dans ce sens-là.
Bien sûr.
Donc, pour moi, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut être inclusif l'un envers l'autre. Donc, pour ce faire, il y a peut-être des réalités que je comprends pas par rapport à des personnes qui n'ont pas d'handicap. Mm-hmm. Donc, j'ai besoin qu'on collabore ensemble pour qu'on puisse arriver à se comprendre et travailler dans le même sens. On va premièrement perdre beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie.
Oui.
Et par le fait même, on va perdre moins d'argent aussi.
Ah, voilà. Une autre notion qui touche, oui, tout le monde. Puis, je veux dire, en plus de ça, de la politique, tu as été intervenante en toxicomanie, tu as travaillé dans une compagnie de télécommunications, donc avec la relation clientèle. Tu as fait l'École nationale d'humour, Lise Poulin.
Ben oui.
Ah, quand même!
Ben, à un moment donné, je me disais, comment? C'est quoi la force qui va faire en sorte que je vais pouvoir toucher ou impacter le plus de gens? Donc, à cette étape de ma vie, je me disais, est-ce que ça serait en étant sur une scène pour justement qu'on arrête de croire qu'on n'est pas comme les autres? Mm-hmm. J'avais même pensé à l'idée d'aller faire du théâtre, mais là, c'était compliqué, hein, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de temps de rôle pour personne en fauteuil roulant. Puis j'essayais de leur faire comprendre que j'ai pas besoin d'un rôle de quelqu'un en fauteuil roulant.
Non, c'est ça.
Je pourrais jouer le rôle d'une réceptionniste, tout simplement.
Ben oui.
Ou est-ce que ça nous dit qu'elle est en fauteuil roulant ou qu'elle ne l'est pas?
Oui, puis il faut oser dire aussi, pourquoi pas un rôle principal aussi?
Ah, mais on sait jamais.
Ben, c'est ça.
Pourquoi pas?
Oui, il faut pas le mettre de côté.
Non, absolument pas. C'est un peu toutes les avenues. Puis, vraiment, en étant impliquée, puis en essayant de changer les choses, ben c'est comme ça que je me suis ramassée là, à faire de la politique. C'était pas, je me suis pas levée un matin en me disant « je veux faire de la politique ». Je me suis plutôt levée à tous les matins en me disant « comment est-ce que je peux faire une différence ».
Je pense que tu l'as, à travers tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu sais, je le répète, tu as 42 ans, je pense que tu n'as pas fini de faire des choses et de nous surprendre. Tu continues d'avancer sur ton chemin pour, comme tu l'as dit, briser les préjugés. Garder, oui, une image positive malgré tout ce qu'on peut vivre en tant que personne handicapée. Oui, il y a des difficultés, mais comme tu l'as dit bien, le mot défi te colle plus à la peau que difficulté, parce qu'une difficulté, c'est une finalité, alors qu'un défi, on peut toujours le surmonter. Et j'ai envie de dire, il nous reste une minute, Lise, mais t'es vraiment une femme de cœur, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ton cœur d'enfant. Mais dans tous les cas, je veux dire, c'est le cœur qui prend toute la place. Alors, merci infiniment pour ce beau moment ensemble.
Mais ça m'a fait plaisir, merci pour l'opportunité de me permettre de poursuivre ma mission, ma route, mon chemin, de faire une différence.
Magnifique. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous. N'oubliez pas d'aller sur le site canalm.vusezvoix.com si vous voulez réentendre les émissions. Merci infiniment à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, ma recherchiste Claire Guérin, Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore. Alors, je pense que vous en avez les oreilles pleines et surtout la tête pleine, mais même le cœur plein aujourd'hui. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.